Change tes habitudes, écoute La Croix du Sud.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de La Croix du Sud.
En classe, nous avons lu et travaillé sur le livre « Un chien contre les loups » d'Hélène Montardre.
Nous allons vous donner plus d'informations sur le Gévaudan, le lieu où se déroule cette histoire, la bête du Gévaudan, une légende locale,
la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale et les animaux dans la guerre. C'est parti!
Bonjour à tous! Aujourd'hui, on va vous présenter un reportage sur le Gévaudan. Le Gévaudan appartient aujourd'hui à la Lozère. Il est situé au sud-est du Massif central. Il est formé d'un haut plateau granitique d'à peu près 1000 mètres d'altitude, découpé par de profondes vallées.
Les hommes sont arrivés dès l'époque préhistorique, profitant de grottes naturelles. Le peuple celte des Gabales occupait les environs dans l'Antiquité avant la conquête romaine et a donné son nom aux Gévaudans et à ses habitants, les Gabalitains.
La Lozère est très peu peuplée. Il n'y a que 14 habitants au kilomètre carré. Les deux villes principales du Gévaudan sont Marvejols et Saint-Chély-d'Apcher. Elles abritent moins de 6000 habitants. Le Gévaudan est une région rurale. Cela signifie que la nature est très présente et le peu de personnes qui y vivent travaillent en tant que
fermiers ou agriculteurs qui élèvent très souvent des moutons, des chèvres et des brebis pour produire du lait et du fromage. Comme il y a très peu d'habitants, le paysage a encore un aspect très sauvage et forestier, favorable au tourisme de randonnée et à la réintroduction de loups. À Sainte-Lucie, près de Marvejols, il y a un parc consacré à l'histoire de la fameuse baie du Gévaudan.
Le Gévaudan, en Lozère, est un lieu touristique exceptionnel. Entre les forêts, les plaines et les vallées, les grottes naturelles sont ouvertes au public. La région est habitée depuis la préhistoire. Durant l'Antiquité, un peuple celte a donné son nom au lieu et à ses habitants. La Lozère, le département où se trouve le Gévaudan, est le moins peuplé de France. Les villes les plus importantes touristiquement sont Marvejols et Saint-Chély-d'Apcher. La région reste rurale et continue l'élevage d'ovins avec une grande production de roquefort.
Le paysage sauvage facilite la randonnée, mais attention, la réintroduction des loups est très présente. Près de Marvejols, à Sainte-Lucie, un parc leur est consacré avec des tarifs de 3 euros pour les enfants, 6 euros pour les adultes, plus les tarifs de groupe. À ne pas manquer, allez-y!
Pendant cette émission, on va vous parler de la légende de la bête du Gévaudan.
En 1764, une terrifiante légende a terrorisé tout le Gévaudan. La légende était celle d'un loup qui attaquait en majorité les enfants.
Il a tué plus d'une centaine de personnes. Antoine de Beuterne tua un gros loup en 1765. 3 mois plus tard, dans la même année, une femme et une fillette ont été tuées.
La bête du Gévaudan tue seulement les enfants et les femmes. À cette époque-là, ils croyaient aux sorcières, dragons, diables et en Dieu.
La bête du Gévaudan, aujourd'hui, est un argument touristique. Il y avait des rumeurs qui disaient que ce n'était pas un loup et que c'était une hyène. Les loups mangeaient aussi des chèvres et des moutons, et n'est pas seulement des femmes et des enfants.
Maintenant, on va vous parler de la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, la France après la défaite militaire, l'organisation de la résistance, la vie secrète des résistants et la libération. La France après la défaite militaire. Au début de la Seconde Guerre mondiale, les forces armées allemandes ont envahi le nord de la France. Le reste du pays était divisé en deux zones séparées par une ligne de démarcation. La zone dite libre au sud était administrée par le gouvernement de Vichy, théoriquement indépendant. L'État français collaborait avec le pouvoir nazi et l'administration française lui servait de la zone libre par les troupes allemandes.
Les Allemands ont pris la France. Les Français bataillent pour la récupérer. La principale difficulté était de coordonner des réseaux formés spontanément et éparpillés sur tout le territoire. Ils se communiquaient par radio avec des codes pour que les Allemands ne les découvrent pas. Ils travaillaient en cachette pour ne se faire pas repérer et même ils ne suivaient parfois pas les ordres de leurs supérieurs pour se protéger.
Si la plupart des gens menaient une vie apparemment normale, d'autres étaient dans ce qu'on appelle la résistance. Les résistants étaient normalement recherchés par la Gestapo, police politique nazie, et devaient se cacher pendant le jour dans des maquis, des lieux plutôt situés dans les montagnes.
Lorsque la Gestapo arrêtait un résistant, elle utilisait la torture pour les obliger à parler et donner des informations. Ils opéraient donc avec des surnoms et, par sécurité, exécutaient souvent des ordres dont ils ne connaissaient pas le commanditaire.
En 1944, lors du débarquement, les troupes alliées en Normandie, américains, canadiens et britanniques, les réseaux de résistance organisés sur tout le territoire formaient une véritable armée secrète des forces françaises de l'intérieur. Elles jouèrent un rôle actif dans les opérations militaires de la libération en multipliant les foyers d'insurrection, en sabotant les communications et en renversant toutes sortes de choses.
Les animaux durant la guerre ont beaucoup aidé les militaires. Ils ont utilisé les dauphins, les éléphants, les abeilles, les dauphins. Les dauphins ont été utilisés pour envoyer des chargements, pour secourir les plongeurs, suivre des sous-marins ou effectuer des missions. Les puces ont aussi été utilisées. Au Japon, les Japonais les ont infectés avec la peste et les ont envoyés en Chine. Le Japon a aussi infecté les mouches avec le choléra.
Les pigeons voyageurs sont des pigeons domestiqués et utilisés pour communiquer. Ils font partie des 300 espèces de pigeons recensées et domestiquées. Quand Ramsès, le pharaon égyptien, a commencé à régner, il les utilisait pour informer son empire de son accession au trône. Durant la Seconde Guerre mondiale, on les utilisait pour envoyer des messages dans certaines villes, des informations aux autres militaires et aussi pour communiquer.
Béchard a pris la forteresse de Saint-Jean d'Acre qui était protégée par des ruches. Le cheval. Le cheval est l'animal qui a été le plus communément utilisé dans l'histoire. Durant la Première Guerre mondiale, le cheval est l'animal le plus utilisé dans la guerre. Les chars et les cavaliers ont longtemps procuré un avantage de mobilité certain sur le champ de bataille. Par exemple, l'usage d'archers montés a permis à l'armée mongole d'entrer parmi les armées les plus puissantes de son époque.
Les pigeons ont été un moyen de communication pendant la guerre de 1870. Les moutons ont été utilisés pour dominer le terrain lors de la Première Guerre mondiale et lors du débarquement en Normandie, en juin 1944.
Dans l'Inde ancienne, l'éléphant a été utilisé comme char d'assaut. En Occident, le Carthaginois, Hannibal, a remporté sur Rome un succès mémorable, soutenu par 37 éléphants qui avaient traversé le Rhône et les Alpes sans dommage. Le recours aux éléphants de guerre était spectaculaire.
Le monde a utilisé une quantité d'animaux innombrables dans des situations bien différentes.
Merci de nous avoir écoutés. Au revoir et à bientôt dans une nouvelle émission de La Croix du Sud.
Change tes habitudes, écoute La Croix du Sud.